c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Dans le cadre de ce ben de l'Amérique latine, en France, nous avons choisi de parler des écrivains de la littérature ou de la poésie de ce continent. Et nous envoyons un bonjour aussi à Dominique et à tous ceux et celles qui s'intéressent à la littérature, à la poésie de l'Amérique latine. Alors, nous allons vous parler aujourd'hui de Roberto Bolaño.
Roberto Bolaño est né à Santiago et mort à Barcelone. Il est poète et romancier chilien. Son père était chauffeur routier et sa mère enseignante. Il se décrit comme un enfant maigrichon, myope, plongé dans les livres et peu prometteur. Il est dyslexique et souvent tyrannisé par ses camarades à l'école, d'où un sentiment d'exclusion. En 1968, il suit sa famille à Mexico. Un moment charnière de la vie de Bolaño survient en 1973 lorsqu'il quitte Mexico pour le Chili, pour aider à construire le socialisme, en appuyant le gouvernement de Salvador Allende. Après le coup d'État de Pinochet qui renverse Allende, Bolaño est arrêté, soupçonné de terrorisme, et passe 8 jours en détention. Il est sauvé par 2 anciens camarades de classe devenus gardiens de prison. D'après la version qu'il donne des faits, il n'est ni torturé, ni tué comme il s'y attendait, mais... Au petit matin, j'entendais les cris des personnes qu'il torturait. Je ne pouvais plus dormir. Il reste encore quelques mois au Chili et évoque le temps de l'humour noir, de l'amitié et du danger de la mort. Pour l'essentiel de sa vie jusqu'à la fin des années 1980, Bolaño vit en vagabond entre le Chili, le Mexique, la France et l'Espagne. En 1977, il finit par s'installer en Espagne. Il travaille le jour comme plongeur, gardien de camping, groom et éboueur, et écrit la nuit. Au début des années 1980, il s'installe à Blanes, petite cité balnéaire de Catalogne. Il continue d'écrire de la poésie et se met à la fiction au début de la quarantaine. 6 semaines avant sa mort en juillet 2003, les romanciers latino-américains le saluent comme le plus important romancier de sa génération, lors d'une conférence internationale tenue à Séville. Parmi ses plus proches amis figurent Rodrigo Fresán et Enrique Villamata. Le premier, Fresán, déclare « Roberto s'est affirmé comme écrivain à un moment où l'Amérique latine ne croyait plus aux utopies et où le paradis était devenu enfer. » À propos de son pays natal, Bolaño avait des sentiments mitigés. Dans une dernière interview, il avait dit se considérer comme latino-américain et il avait ajouté « Mon seul pays, ce sont mes 2 enfants. et peut-être des moments, des rues, des visages ou des livres que je porte en moi. Bien qu'il se soit toujours senti profondément poète, sa réputation s'est bâtie sur ses romans et nouvelles. Malgré son style de vie de poète bohémien et d'enfant terrible de la littérature, durant toute sa vie, il a commencé seulement ses œuvres de fiction dans les années 1990. Il devint aussitôt un des personnages clés de la littérature espagnole et latino-américaine.
Nous écoutons un pianiste chilien qui a composé aussi cette musique au piano. Et nous avons parlé de la poésie, parce que c'est vrai que Bolaño, on ne connaît pas trop, mais il se prenait vraiment pour un poète. Donc nous allons lire un poème de Roberto Bolaño, qui s'appelle
« Les chiens romantiques ». En ce temps-là, j'avais 20 ans, et j'étais fou. J'avais perdu un pays, mais j'avais gagné un rêve. Et si j'avais ce rêve, le reste était sans importance. Travailler ou prier, ou étudier à l'aube, auprès des chiens romantiques. Et le rêve vivait dans le vide de mon esprit. Une chambre en bois, dans la pénombre, dans l'un des poumons du tropique. Et parfois je retournais en moi et je rendais visite aux rêves. Statues qui s'éternisent en des pensées liquides, un ver blanc qui se tord dans l'amour. Un amour le moraudant, un rêve dans un autre rêve. Et le cauchemar me disait, « Tu grandiras, tu t'éloigneras des images de la douleur et du labyrinthe, et tu oublieras. » Mais en ce temps-là, grandir aurait été un crime. Je suis ici, ai-je dit, avec les chiens romantiques. Et c'est ici que je vais rester.
Merci Béatrix. C'est un poème donc en français, mais ça donne ceci en espagnol. Los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et aujourd'hui, nous parlons d'un romancier poète chilien, Roberto Bolaño.
Oui, au sujet du roman Les détectives sauvages, d'après le supplément littéraire du journal Le Monde en mars 2070. Le lecteur n'est pas obligé de savoir que cette vaste fiction, publiée en 1998 en Espagne, est déjà un livre culte pour nombre d'auteurs espagnols et latino-américains. Donc, les détectives sauvages n'ont pas de patrie. Chili, Nicaragua, Argentine, Allemagne, France, Espagne, tout leur est bon. Leur base arrière est Mexique, qui attire tous les réfugiés d'Amérique latine, contestataires et idéalistes. Vers 1975, ils fondent un mouvement avant-gardiste à la fois radical et cordial, le réalisme viscéral, auquel Bolaño a appartenu pendant sa jeunesse mexicaine. Il s'agit de composer des vers épars et criminels, de vagabonder, saper l'ordre du monde et de la poésie officielle. Mexico rayonne ainsi comme un lieu inaugural capable de projeter sur la surface des continents les énergies venues à elle de toute l'Amérique latine. Alors, les détectives sauvages, qu'est-ce que c'est ? La vision brutale et lyrique du monde sur les 30 dernières années du millénaire précédent, vue par un petit groupe d'amis excentriques, tissant un réseau planétaire mais anarchique, poétique, et mené du côté des perdants, du côté des « nous autres », les sans peur et sans espoir, comme l'écrivain Bolaño dans un de ses recueils de poésie. C'est une histoire dans les extramuros de la civilisation, dixit l'un des personnages du roman.
Oui, j'ai oublié de dire que c'est détective privé qui a fait connaître à niveau international Roberto Bolaño. Mais tu vas nous lire un extrait, n'est-ce pas ?
Un extrait ?
Oui.
C'est extrait de la page 590 des éditions Folio Gallimard. J'ai passé mes premières semaines en Europe, comme c'est facile à imaginer, à chercher du travail et à travailler, parce que je devais payer chaque semaine ma chambre et qu'en plus, à terre, mon appétit tempéré ou adouci pendant la traversée maritime, s'était réveillé avec une voracité que je ne lui connaissais pas. Mais pendant que j'allais d'un coin à un autre, disons de la pension au travail, quelque chose a commencé à m'arriver qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je n'ai pas mis longtemps à m'en apercevoir, parce que sans fausse modestie, j'ai toujours été plutôt dégourdi. La question, par ailleurs, était bien simple, même si au début, elle m'a inquiété. Vous aussi, elle vous aurait inquiété. Je résume. Je marchais sur les Ramblas, heureux de vivre, avec les préoccupations normales d'un homme normal, et tout à coup dans ma tête, il y avait des nombres qui commençaient à danser.
1-0, 1-0, n'est-ce pas ?
Oui. D'emblée, j'ai pensé que c'était à cause du temps que j'avais passé enfermé dans les tripes du Napoli. Mais la vérité, c'était que je me sentais bien, je mangeais bien, je dormais comme un loir. Ensuite, j'ai pensé au changement d'environnement, qui dans mon cas était un changement de pays, de continent, d'hémisphère, de coutume, de tout. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour retourner l'affaire dans ma tête, parce que la solution n'a pas tardé à arriver, et elle est arrivée d'un coup.
Oui, et c'est très... Justement... Je n'ai pas dévoilé pourquoi ça a tout changé. Il pensait au numéro, au nombre comme ça. Et après, il a joué au loto. Et ça a beaucoup changé sa vie. L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord et j'assiste, nous parlons d'un écrivain chilien, Roberto Bolaño, peu connu en France, mais qui prend beaucoup plus d'importance.
Il va le devenir.
Petite, oui. Alors, il y a un livre, justement, son livre posthume.
2670.
Voilà.
Oui, alors l'écrivain Mohamed Mekhboukhtar Saha, prix Goncourt 2021, salue la réédition du livre 2666 de Roberto Bolaño, dont il est grand admirateur. Œuvre posthume et inachevée, parue en 2004, peu après sa mort, à 50 ans, Roberto Bolaño incarne surtout l'inachèvement érigé en art poétique. À la fois roman de l'urgence de la quête finale et celui de l'infini promis à toute quête. Aucune pesanteur ne plombe une écriture dont le style est souple, énergique et allègre. En apparence, la structure éclatée du roman dégage très peu. Pourtant, quelque chose lie bien les personnages plus solidement que ne l'eût fait la ligne claire d'une intrigue. La conscience d'une participation oblique presque obligatoire au mal. Roberto Bolaño croit à la littérature. Il la joue, l'éprouve, s'y engage comme dans une cause perdue, la seule donc à mener. Toute son œuvre pourra être lue comme une longue prière pour, par et à l'écriture, dont 2666 serait l'amen. Amen. C'est parce qu'il a foi dans la littérature qu'il dénonce ses compromissions, ses facilités, son regard fuyant quand on tue ou torture à son ombre. Parce qu'il a foi en elle, qu'il exige des écrivains et des lecteurs qu'ils soient courageux et se confrontent aux grandes œuvres imparfaites, torrentielles, qui ouvrent des chemins dans l'inconnu. 2666 en est une.
Oui, éventuellement un petit extrait, s'il te plaît.
Oui, un petit extrait, donc toujours de par folio, page 389, c'est très précis. En réalité, lorsqu'on parle d'étoiles, on le fait en sens figuré. C'est ce qu'on appelle une métaphore. On dit, c'est une étoile de cinéma. On est en train de parler par métaphore. On dit, le ciel était couvert d'étoiles. Encore des métaphores. Si on est émerveillé par quelque chose, on dit qu'on a des étoiles plein les yeux. Une autre métaphore. Les métaphores sont notre manière de nous perdre dans les apparences ou de rester immobile dans l'océan des apparences. Dans ce sens, la métaphore est comme une bouée de sauvetage. Il ne faut oublier qu'il y a des bouées de sauvetage qui flottent et des bouées de sauvetage qui coulent à pic vers le fond. Ça, il vaut mieux ne jamais l'oublier. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule étoile et que cette étoile n'est pas du tout une apparence, n'est pas une métaphore, ne surgit pas d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous l'avons là, dehors. C'est le soleil. C'est lui, pour notre malheur, l'unique étoile. Page, maintenant, 1094. Des peurs irrationnelles, surtout si les peureux contrebalancent leurs peurs avec des apparences. Ce qui revenait à dire que le paradis des bons écrivains était habité par des apparences. Et que la qualité d'une œuvre tournait autour d'une apparence. Une apparence qui chargeait selon les époques et les pays, mais qui se maintenait toujours en tant que telle apparence.
Oui, il faut préciser que ce livre a été adapté en pièce de théâtre au Festival d'Avignon, il y a quelque temps. Nous écoutons, il fallait dire aussi, c'est ça comme Béatrice l'a signalé, c'est un pianiste, interprète chilien, Oscar Gacitua. Mais maintenant, nous allons aborder aussi ce qui nous dit Vila Matas,
oui, un écrivain. Vila Matas, qui était un ami de Roberto Bolaño.
Catalan, écrivain catalan, voilà, oui.
Voici l'article paru dans le magazine Le Monde des Livres au sujet de l'œuvre de Bolaño. La réussite du volume en 6 tomes des œuvres complètes de Roberto Bolaño repose sur l'audacieuse revendication du rôle capital que joue la poésie dans la vie et les livres de l'écrivain chilien. Bolaño fut en réalité jusqu'au bout des ongles un poète. Et c'est pourquoi ce n'est pas un hasard si les principaux personnages de ses romans sont aussi des poètes. Il était conscient qu'il devait apprendre à évoluer à la vitesse nécessaire de celui qui ne veut pas survivre. Ce sont des phrases énigmatiques. On ne finit jamais de bien comprendre Bolaño, et peut-être est-ce le meilleur éloge que l'on puisse faire de son écriture. Prose de l'automne à Gérone ou Étoiles distantes sont à mes yeux des perles de l'œuvre de Bolaño. En poussant le lecteur à se rebeller contre tout ordre chronologique des textes, on l'oblige à lire d'une façon que nous pourrions qualifier de subversive, un type de lecture qui aurait sûrement fasciné Bolaño.
Oui, et là on indique aussi que Bolaño s'est toujours perçu comme un homme qui s'est consacré entièrement à la poésie. Et les meilleurs de son œuvre résultent d'un transvasement des genres. Partant du récit, il recrée les conditions qui permettent l'acte poétique. Et c'est pour cela que nous allons lire maintenant un poème qui s'appelle
« La Muse ». Elle était plus belle que le soleil et je n'avais pas 16 ans. 24 ont passé et elle continue à mon côté. Parfois, je la vois marcher dans les montagnes. Elle est l'ange gardien de nos prières. C'est le rêve qui revient avec la promesse et le sifflet qui nous appelle et nous perd. Dans leurs yeux, je vois les visages de tous mes amours perdus. Ah, muse, protège-moi, je lui dis, dans les terribles journées d'aventure incessantes. Ne te sépare jamais de moi. Prends soin de mes pas. Laisse-moi sentir de nouveau le bout de tes doigts sur mon dos quand tout est noir, quand tout est perdu. Je suis ton fidèle amant, même si parfois le rêve me sépare de toi. Tu es aussi la reine des rêves. Mon amitié, tu l'as tous les jours et un jour ton amitié viendra me prendre dans le désert de l'oubli. Muse, partout où je vais, tu vas aussi. Je t'ai vu dans les hôpitaux et dans la file des prisonniers politiques. Je t'ai vu dans les allées des hommes armés. Et tu m'as toujours protégé. Muse, je vais suivre ta trace rayonnante à travers la nuit, sans me soucier de la douleur ou de ma vieillesse. Parce qu'avec toi, je peux traverser les grands espaces désolés, parce que tu es avec moi, Muse, plus belle que le soleil et plus belle que les étoiles.
Et ça donne ça en espagnol. Musa. Era más hermosa que el sol y yo tenía 16 años. 24 han pasado y sigue a mi lado. A veces la veo caminar sobre las montañas. Es el ángel guardián de nuestras plegarias. Es el sueño que regresa con la promesa y el silbido. El silbido que nos llama, que nos pierde. En sus ojos veo los rostros de todos mis amores perdidos. Ah, musa, protégeme, le digo, en los días terribles de la aventura incesante. Nunca te separes de mí. Déjame sentir la punta de tus dedos otra vez sobre mi espalda, empujándome cuando todo esté oscuro, cuando todo esté perdido. Déjame oír nuevamente el silbido. Soy tu fiel amante. Aunque a veces el sueño me separe de ti, también tú eres la reina de los sueños. Mi amistad la tienes cada día y algún día tu amistad me recogerá del erial del olvido. pues aunque tú vengas cuando yo vaya, en el fondo somos amigos inseparables. Musa, a donde quiera que yo vaya, tú vas. Te vi en los hospitales y en la fila de los presos políticos. Te vi en los callejones de los pistoleros. Siempre me protegiste. En la derrota y en la rayadura, en las relaciones enfermizas y en la crueldad, siempre estuviste conmigo. Y aunque pasen los años y el Roberto Bolaño de la Alameda se transforme, se paralice, se haga más tonto y más viejo, tú permanecerás igual de hermosa, más que el sol y que las estrellas. Musa, a donde quiera que tú vayas, yo voy. Sigo tu estela radiante a través de la larga noche, sin importarme los años o la enfermedad, sin importarme el dolor o el esfuerzo que he de hacer para seguirte, porque contigo puedo atravesar los grandes espacios desolados y siempre encontraré la puerta que me devuelva a la quimera, porque tú estás conmigo, musa, más hermoso, más hermosa que el sol y más hermosa que las estrellas. Notre émission littéraire consacrée à Roberto Bolaño se termine. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour continuer à découvrir ou redécouvrir de la littérature, de la géographie, de la poésie de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a accompagnés pour faire découvrir Roberto Bolaño et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.